Bonjour la Méditerranée, bienvenue dans Cantara, le magazine des deux rives de notre mer Méditerranée. Ce numéro est le dernier de la saison qui a débuté en septembre 2016 et qui s'achève donc après 36 rendez-vous hebdomadaires. Dans ce Cantara spécial, nous dresserons un bilan de l'actualité de ces 9 mois écoulés dans nos pays respectifs. Et je vous rappelle que Cantara est une coproduction avec Alger Chaîne 3, Linda Boidma, France Bleu RCFM, Pedro Mar et Thomas Brunel et Pierre-Louis Alessandre, et Chaîne Inter Rabat, Nadira Belhoutout et Mohamed Chafoui, Radio Tunis, Chaîne Internationale, Maya Dassili, Radio Le Caire, Dina Abdelmeguide et Radio Estelor d'Espagne, Iman Ouinzar. Nous débutons ce dernier numéro de la saison avec une chanson algérienne de Karina Naït qui nous chante Méli.
Viens, j'aimerais que tu me dises tiens, comme tu faisais jadis ce plein, cet amour de Venise loin, de toutes ces sottises. Méli, nebki ala hali, al-hub l'insan.
C'était la chanson algérienne et pour débuter ce dernier Cantara de la saison, nous recevons celui grâce à qui cette belle aventure radiophonique a commencé. Pierre Mar est le créateur de Cantara et après 33 ans de bons et loyaux services, il quitte la radio RCFM pour une nouvelle vie. Donc Pierre Mar, une page se tourne.
Oui, c'est une page qui se tourne, effectivement. Je n'ai aucun regret. Elle se tourne vers l'avenir et une page s'ouvre dans ma vie. Elle sera différente. Il y aura d'autres projets, si la santé me le permet. Donc, je pars l'esprit tranquille, puisque je vois que ça continue. Cantara, ça continue et que toute l'équipe est toujours présente. J'embrasse tout le monde, évidemment. Mais je pense beaucoup à vous, il faut le dire. Donc, je me tourne vers le passé et je suis content finalement de ce qu'on a fait tout bêtement. Je suis heureux d'avoir vécu ça. C'est des moments merveilleux, irremplaçables. On s'est connus, un groupe naturel s'est formé finalement et on se manque les uns les autres avec le temps qui est passé. Et je trouve que on a eu beaucoup de chance de réussir cette entreprise avec tous les pays concernés et tous les journalistes amis concernés. Donc voilà, j'espère que ça va continuer avec toi, Thomas, et avec tous les autres, faire de nouvelles aventures, faire évoluer Kantara tout le temps, parce que il faut que ça évolue tout le temps, parce que ce qui n'évolue pas meurt, évidemment, comme tu le sais.
Alors Pierre, c'est vrai que Kantara, ça n'a pas été évident de construire et de lancer ce magazine parce qu'on était, tu étais avec toute l'équipe du départ un peu allé à contre-courant et on s'est aperçu que l'actualité, eh bien finalement, t'a donné raison parce qu'il fallait absolument le faire, ce Kantara. Donc c'est une aventure radiophonique, une aventure humaine de partage et d'échange.
Oui, tout à fait. D'abord, c'est une aventure, je dirais, j'ose le dire, un peu personnelle, puisque il m'était important de faire en sorte que la Corse retrouve sa place en Méditerranée, qu'elle avait un peu perdue, il faut le dire. Et pour cela, la radio était indispensable. Le service public de la radio en Corse était indispensable. Et donc, effectivement, tout le monde n'a pas compris cette démarche en Corse et à Radio France, encore moins. Alors, je me suis dit, avec d'autres, avec Michel Codaccioni, je dois le préciser, on va le faire quand même. Et donc, on l'a fait dans l'adversité un petit peu. Radio France faisait un peu la tête, il ne voulait pas, mais on l'a fait. Et puis après, disons que on y a été un petit pas. On a commencé avec le Maroc, avec Anan Laïmani, que je salue si elle m'entend. Et avec Anan Laïmani, ensuite, elle est venue l'Égypte, elle est venue l'Algérie, la Tunisie, etc. Donc, petit à petit, l'équipe s'est constituée au fil des 3 premières années de Kantara. Et effectivement, tu as raison, quand sont arrivés les problèmes politiques en Méditerranée, ce fameux printemps politique des pays méditerranéens, effectivement, on s'est aperçu qu'on avait raison, et d'ailleurs, on nous a donné raison à Radio France, officiellement.
Alors, Pierre, est-ce que le pari est gagné?
Il est gagné parce qu'on existe. Le chemin est encore très long. On est entré en Méditerranée avec Kantara, noyé par le racisme ambiant. Je ne parle pas seulement le racisme en Corse, le racisme partout, dans l'ensemble des pays de Méditerranée. Et donc, il a fallu d'abord se battre contre ça, intelligemment, avec pédagogie, en laissant parler les gens. Donc ça, on l'a fait. Et on a eu raison de le faire sur ce plan-là. Il est gagné, même si je me rends compte que, pour ce qui concerne la Corse, par exemple, son ouverture vers la Méditerranée qui est indispensable, le chemin est encore long. Il faut que les institutions y croient et nous aident. Et nous sommes un paramètre parmi tant d'autres. Il est gagné dans la mesure où on existe, mais il sera gagné quand on sera au bout, en tout cas, nous préfigurons au fond une Méditerranée idéale où tout le monde s'écoute, tout le monde s'entend, tout le monde se comprend. Nous allons vers un même objectif, finalement, vers un monde plus beau, plus riche culturellement. Cet objectif-là, ben, Kantara continue à le faire sien, quoi, disons.
Alors, on va conclure, Pierre, un petit message à passer à tous les Cantariens et à tous les gens qui nous écoutent depuis tant d'années.
Ben, écoute, le petit message, c'est pour tous et pour toute l'équipe, toute cette rédaction virtuelle qui fait Kantara, ben, ne lâchez pas, continuez à tenir très fort ce petit bijou qu'est devenu Kantara dans une Méditerranée très amère et très difficile, où la guerre et l'adversité règnent, où les flux de population de déshérités, de pauvres, se réfugient ça et là où ils peuvent quand ils ne meurent pas noyés. Donc continuons, nous, dans cet espace qui est idéal, à nous battre, à exister. Nous sommes petits, mais nous existons et petit à petit, peut-être que nous élargirons notre influence et d'autres prendront exemple sur ce qu'on fait. Donc, tenez fort et je vous embrasse tous. Continuez bien.
Merci Pierre, nous allons essayer de continuer dans cet esprit qui était le tien à la création de ce magazine et qui désormais est le nôtre. Et Iman Wenzar de Radio Exterior d'Espagne a tenu à te rendre hommage en te dédicaçant une chanson. Iman Wenzar.
En attendant, un poutou, comme diraient nos amis toulousains, à Pierre-Marie, Petru-Marie, le référent, le chef de la tribu Cantara, qui prendra sans doute le chemin du village pour quelques semaines de repos, à ne rien faire, comme lui et Pierre-Louis nous le narraient lors d'un précédent programme consacré aux vacances. Pierre, bonnes vacances. Profite de ton statut d'homme libre, non soumis aux contraintes, aux horaires, ni aux à côté de notre travail quotidien. Rendez-vous en automne. D'ici là, un petit cadeau pour l'écouter au village. Estrella Morente, la belle Estrella que tu aimes tant. Los Cuatro Muleros, un poème de Federico García Lorca.
Ay, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al agua, que van al agua. El de la mula torda, el de la mula torda, el de la molilla torda, mamita mía, me roba el alma, me roba el alma. Está lloviendo en el campo, está lloviendo en el campo, está lloviendo en el campo, mamita mía, mi amor se moja, mi amor se moja. Quien fuera un arbolito, quien fuera un arbolito, quien fuera un arbolito, mamita mía, lleno de hoja, lleno de hoja. La lumbre, que buscar la lumbre, mamita mía, la calle arriba, la calle arriba. Si de tu cara sale, si de tu cara sale, si de tu cara sale, mamita mía, la abraza a mí. Palabras a mi pau. Ay, que te calles, que te calles, que te tengo tapadita, cosita que nadie sabe. Te tengo tapadita, cosita que nadie sabe. Ya nadie quiero, ya nadie quiero, mientras que viva mi compañero, mientras que viva mi compañero. Ay, a mi burra no la toque, que ya mata la dinera, rompí la vara del coche. Ay, que ya mata la dinerita, rompí la vara del coche.
On reste avec Iman qui ouvre le bal pour ce bilan, le bilan de l'actualité de ces 9 mois passés en Espagne.
Un bilan 2016-2017? Un bilan par cette canicule? Exercice compliqué, mais surtout, surtout, un bilan requiert des repères stables, une base solide. 2016-2017, dites-vous. Oui, bon, du stable, du solide, du presque immuable. La fidélité à leurs principes des supporters du Rayo Vallecano, refusant la venue dans leur club d'un joueur ukrainien soupçonné d'accointance néo-nazie. les supporters d'un club madrilène de football s'opposent à la venue d'un nouveau joueur au sein de leur club. Le Rayo Vallecano est en effet davantage qu'un club. Sa spécificité lui vient de son propre quartier, Vallecas, un quartier humble, nourri de lutte et de mobilisation, un quartier auquel prêtres, ouvriers et militants de gauche ont imprégné une manière de voir la vie différente. Ici, les supporters sont capables de vous dire « on préfère chuter en seconde B plutôt que de se renier ». Permanent, solide, construit, les arguments brandis depuis le Portugal contre le nucléaire. Au Portugal, le débat nucléaire se focalise depuis longtemps sur la centrale d'Almaraz, en territoire espagnol à quelques 80 km de la frontière.
Portugal optou por não ter centrais nucleares e, portanto, não é justo também que sofra os danos ou os eventuais danos e os riscos que advêm de outros países terem centrais nucleares.
Séculaire, millénaire, profond, sauvage, les bois du nord de la péninsule ibérique. Mais peut-être pas, hélas, si permanent, peut-être fragile, menacé. Dans les bois profonds, touffus de Cantabrie, Joaquim Gutiérrez Acha a choisi de prendre pour guide l'ours brun pour son nouveau film documentaire « Cantabrico ». Le film documentaire coproduit par la radio-télévision espagnole a en effet pour acteur principal l'ours brun des Pyrénées. Le marchand des premières phrases a valu un prix européen de littérature à l'auteur francophone roumain Matei Vișniec, le nouvel ami de Cantara rencontré lors de son passage à Madrid. Vișniec qui nous pousse à penser, à dénicher les fausses apparences.
C'est vrai qu'au début, oui, lors des premières années, quand j'ai commencé à écrire directement en français, j'ai beaucoup écrit sur mes angoisses roumaines, sur les sujets qui me préoccupaient beaucoup, sur le lavage de cerveau à l'époque totalitaire, mais aussi j'ai découvert le lavage de cerveau dans les grands pays occidentaux et démocratiques.
Le marchand des premières phrases, celui qui aide à vaincre l'angoisse, la panique de la page blanche, oui, mais que fait-on de la dernière phrase, celle qui clôt un récit, un poème, une vie, une aventure, un programme. Ami Matei, pensez donc au marchand des dernières phrases et que surtout il ne soit ni le marchand de sable, ni le marchand de poudre de perlimpinpin.
Aujourd'hui, on n'ose plus rien dire. La pensée politiquement correcte est tellement forte qu'on parle sans rien dire. Voilà pourquoi, par exemple, le théâtre de l'absurde de Eugène Ionesco est d'une fraîcheur incroyable, parce que c'est un théâtre qui montre pourquoi, parfois, même la pensée est bloquée. La langue est bloquée, les langages sont bloqués, parce qu'on est formaté par le politiquement correct.
Nous sommes dans une situation tout à fait inédite. C'est un monde qui a choisi de quitter et qui va devenir un pays tiers, et donc avec lequel il va falloir trouver une nouvelle relation. Le timing est très serré à cause des élections au Parlement européen en juin 2019. Il faut donc impérativement qu'en mars 2019, on ait conclu l'accord de divorce et qu'on ait bâti la nouvelle relation.
Nicole Fontaine parle bien sûr du Brexit. Nous en sommes là. Un monde de faux fuyants, d'absurdes, de sable mouvant. Et pour tout finir de démolir, démolir toutes nos certitudes, voilà que même Lucie n'est plus notre grand-mère, la grand-mère de l'humanité, juste au moment où nous avions fini par l'adopter, lorsqu'il y a quelque temps, on nous apprenait Comment cette grand-mère était morte, sa chute d'un arbre, les jambes en avant, fracture des deux jambes, douleur lancinante qui, du coup, nous parcourt à nous aussi, des genoux au cerveau, à travers la moelle épinière. Lucie, dont nous sommes désormais dépossédés. Il paraît que nous venons d'ailleurs. Nos ancêtres sont autres, plus sûrs de rien. Bonnes vacances, quand même.
Bonnes vacances, Imane, et une pensée pour Lucie, bien sûr. Allez, partons en Égypte, où l'actualité a été lourde, comme dans tous nos pays. Mais avant, une chanson, Misr Oraïba.
مصر قريبة وأواه يدوب جواها الغريب ما بالك وانت القريب أخويا وصاحبي
وانت ماشي في مصر شايف ألف ضحكة بتناديك وانت ماشي في مصر عارف إنها فرحانة بيك قولي فين الغربة وانت وسط أهلك مش بعيد ده الفرح لو زار ديارك لسان الناس بالكلام الحلو ينقط سكر حالي كل شي فيها طيب فيها حاضر فيها طيب فيها يتلاك كل حبة وفي القلوب الناس تطيب نهار وليل مصر صحية تبارك فيها النوم وانت ماشي في مصر شايف ألف ضحكة بتناديك وانت ماشي في مصر
L'Égypte maintenant et son actualité. Le bilan nous est dressé par Dina Abdelmeguid de Radio Le Caire.
Et voilà que nous sommes arrivés à la fin de saison de Kantara. L'actualité en Égypte durant cette saison a été si lourde, si angoissante. On a passé par beaucoup de drames encore plus violents et tragiques. Les attentats sanglants revendiqués par Daesh qui ont visé des églises coptes, des points de police et l'armée égyptienne. Un coup contre le peuple égyptien et contre son unité nationale. Tous ces actes terroristes ont souillé l'image de l'islam de par le monde. Il fallait donc rectifier cette image. C'est dans ce contexte qu'est intervenue la visite de deux jours en avril dernier du pape François en Égypte. Le pape a porté un message de paix et a encouragé le dialogue interreligieux. Une visite réussie qui confirme le rapprochement entre le Saint-Siège et Al-Azhar et met l'accent sur le rôle géopolitique de l'Égypte. C'est vrai que l'armée égyptienne et la police ont mené une guerre acharnée dans le Sinaï, cette zone célèbre pour abriter des cellules terroristes, mais tant que la pensée djihadiste persistera et tant que le flux des armes et de l'argent se maintiendra, le terrorisme, même affaibli sous les coups sécuritaires, finira par reprendre son cycle habituel. C'est pour cela et à chaque occasion, le président Abdel Fattah Sisi a réitéré son appel à combattre le terrorisme sur tous les fronts, tant sécuritaires qu'idéologiques, et a mis en garde les pays qui financent et soutiennent le terrorisme. Et voilà, enfin, la décision tant attendue est prise. L'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn et le Yémen ont décidé le 5 juin de rompre leurs liens diplomatiques avec le Qatar pour avoir soutenu le terrorisme. On a passé aussi par plusieurs crises économiques, telles que la flambée des prix suite au flottement de la livre égyptienne, le manque de médicaments ainsi que la pénurie des denrées alimentaires. Mais il faut dire qu'en dépit de ces répercussions, la réforme était une nécessité pour remédier à la défaillance structurelle de l'économie. Sans oublier les efforts déployés par le gouvernement pour la lutte contre la corruption et les mesures prises pour contrôler les marchés. Un autre point qui a marqué cette saison en Égypte, c'est l'accord sur la frontière maritime signé entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite et annulé par un jugement continu a suscité de fortes réactions sur les deux îles Tiran et Sanafir. Les Égyptiens restent malgré tout très divisés sur la question et face à ceux qui manifestent contre l'accord, beaucoup sont ceux qui le défendent, n'y voyant que la restitution d'un droit. L'Égypte exerçait-elle sa souveraineté sur les îles et ne les administrait pas comme il a été dit? Une question qui reste toujours sans réponse. Sur le plan international, on a traité la situation de la Syrie qui entre dans sa sixième année de guerre civile, une guerre qui a déjà fait 220 000 morts, 3 millions de réfugiés et 6 millions de déplacés ou de sans-abri. Toujours sur le plan international, au cours des deux dernières années, l'Égypte s'est efforcée de se repositionner dans le continent noir après 7 décennies d'absence en adoptant une politique d'intégration qui s'illustre notamment par une présence du président dans les arènes de l'Union africaine et ses différentes institutions et en organisant des forums africains en Égypte. Une diplomatie qui a porté ses fruits puisque l'Égypte a été élue membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, décrochant le siège de représentant de l'Afrique du Nord pour un mandat de 3 ans. Enfin, je garde de bons souvenirs de nos rencontres, l'équipe de Kantara. Je pense à Matera, capitale européenne de la culture 2019, où on a traité la question des migrations. Je pense aussi au Liban, où a eu lieu la conférence sur le discours de la haine dans le cadre de la rencontre annuelle de l'ECOPEAM. Et je vois que Kantara a beaucoup évolué cette saison. On a consacré des numéros sur l'environnement. Sans oublier les spéciaux Kantara font par chacun de nous. Merci à vous, nos auditeurs de la Méditerranée. Merci à toute l'équipe de Kantara. Bonnes vacances à toutes et à tous. Et à bientôt. Dina Delmeguid, Radio Le Caire.
À bientôt Dina et bonnes vacances. Le Maroc maintenant avec une chanson Ethnolove de Vavamix.
انت ما تدريني شبالك وانا غير العبد ديالك
حبيبي مرة بركة باغي نبرة كل مرة تجيب لي جمرة تكوين مرة لمرة قلو يا قليبي مالك من حبي لي مالك انت ما تدريني شبالك وانا غير العبد ديالك
ولا كلمة يقول غير الله راني ما يقول
قال لي
قلبي مرة
حال وحوال عيني ما تشدش على السحيل السن تيدفال قلبي تايب السيمبل حتى سيل الفعال تنشوف فيك الام المراه الايام والحلال ياك قلب بنادم تيتساغ غير واحد واخا العين تتشوف بزاف تايب غير واحد.
Un message personnel, c'est ce que Nadira Belhotou a tenu à passer à tous les auditeurs, à toute l'équipe de Kantara. Nadira Belhotou de Rabat Chalinter.
C'est avec beaucoup d'émotion que je vais faire le bilan de mon travail au sein de l'équipe de Kantara. Kantara, cette émission qui cette année va s'achever en attendant peut-être une éventuelle reprise sous d'autres formes. Mais depuis que j'ai commencé le travail, l'aventure de Kantara, c'était vraiment comme sur un bateau à la découverte de nouvelles rives. J'ai découvert grâce à Kantara tous les ports de la Méditerranée, Malte, Cagliari, Marseille, le Liban, plusieurs pays de la Méditerranée. Ça, c'est vraiment une chose qui m'a beaucoup marquée. Sur le plan du travail, j'étais très heureuse de faire la connaissance de tous ces coproducteurs de nos pays respectifs. Si c'était à refaire, je le referais bien sûr avec le même plaisir. Je pense bien sûr à Pierre-Marie, alors avec lequel j'ai travaillé la première fois que j'ai rejoint l'équipe de Kantara. Pierre-Marie, ce modérateur, cette âme pensante de Kantara qui bien sûr était à la naissance de l'émission Kantara. Je le remercie, je lui rends un très 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 grand hommage. Ça a été un grand plaisir de travailler avec toi, Pierre-Marie. Bien sûr, je pense à ces émissions, ces chapitres que nous avons consacrés et qui nous ont permis chacun de connaître le mieux l'autre pays, nos pays respectifs. Et bien sûr, nos auditeurs pouvaient accompagner et connaître l'actualité dans nos pays grâce à ce travail hebdomadaire qu'on faisait avec tous, avec joie et avec bien sûr beaucoup d'émotions. Je ne trouve pas mes mots, les mots de la fin sont toujours très difficiles, sinon je risque de faire une déclaration fleuve qui ne va pas s'arrêter et ça risque de prendre un second deux minutes. Je remercie tous les auditeurs et auditrices qui nous ont accompagnés dans tous nos pays de la Méditerranée. Et ça a été une joie de partager avec eux l'actualité, les magazines et de partager avec eux tout ce qui nous rassemble au sein du pourtour de la Méditerranée et tout ce qui nous différencie.
Voilà le joli message de Nadira. Allez, maintenant, une belle voix, une très belle voix, celle de Francine Massiane qui nous chante « Atovata », ça veut dire « taffé », pour annoncer le bilan pour la Corse.
Stringimi forte in petto e pigli un calore per una creatura. Non c'è più per un letto che quello in amore ad appaggia paura. Vada e canterà giù tutta la nottata per farti scorta fino all'alburidiada. Dormi, oh caro, dormi, dormi, dormi. Dormi. stella d'Oida, ci illuggerà una stella. A corale da virtù, con pazienza infinita, ambellia d'ostra di scorta fino all'alburidia. Serena, a te nella mia mano, o fiore di l'amore che la mia vita sommena, usa più dolce vera.
C'était la merveilleuse Francine Massiani. Le visage politique de la France s'est transformé en quelques mois. Le parti au pouvoir, le PS, s'est désintégré. La droite qui avait la victoire à sa portée s'est atomisée. Le Front National n'a pas retrouvé aux législatives son score de la présidentielle au premier tour. Et la gauche de Mélenchon non plus. Mais ce qui est désormais, hélas, une permanence en France, comme dans de nombreux pays, c'est le terrorisme. La France a évité l'extrême droite, mais elle lutte contre cet ennemi invisible, mortel, criminel, qui frappe n'importe tout et n'importe quand. C'est un peu le bilan de cette saison avec une Corse en apparence sereine que nous dresse Pierre-Louis Alessandri.
En apparence seulement, car l'île, si elle a rompu avec ses démons des attentats de ces dernières années, elle peine à trouver une ligne sociale équilibrée. Elle affiche une population de 60 000 pauvres et près de 22 000 chômeurs sur 320 000 habitants. Son activité économique est loin derrière les autres grandes régions françaises. Son tourisme, qui rapporte près de 3 milliards, ne permet pas une croissance qui profite à tous. Ceci expliquant peut-être cela, elle a mis l'extrême droite au premier rang lors de l'élection présidentielle, véritable mesure de l'identité politique d'un territoire, preuve d'une Corse inquiète et qui semble avoir peur de l'autre. Une Corse qui vit au tempo de l'Hexagone. Et l'Hexagone s'est doté d'une physionomie politique qui a rompu la tradition. Les grands partis sont hors course au profit d'un mouvement qui se dit transgressif et qui affiche une jeunesse et une volonté qui rassure, mais jusqu'à quand ? La politique reste la politique et reprend toujours sa place, l'histoire le montre. La victoire de Macron s'est faite sur la dépouille des affaires d'un Fillon qui a conduit ce qui restait d'un parti gaulliste promis à la victoire vers la défaite. Pour éviter l'extrême droite, une majorité de Français se sont jetés dans les bras d'un jeune banquier mis sur la scène politique par un François Hollande qui était loin de se douter de sa fulgurance, à prendre le pouvoir et à laminer ce que lui-même avait déjà commencé à détruire depuis son élection en 2012, le Parti socialiste. La gauche n'a pas su, voulu, rentabiliser son score des présidentielles, qui la mettait PS de Hamon et France insoumise de Mélenchon à près de 25%. Elle s'est transformée en machine à perdre. Et il ne faudra pas compter sur Macron pour la reconstruire, lui qui pratique le ni-ni. La droite, celle des Républicains, car une autre partie est au pouvoir, avec notamment le Premier ministre, est condamnée à essayer de ferrailler contre les plans libéraux du nouveau pouvoir, adoubé par le MEDEF, et qu'elle a peine à réprouver in petto. Mais c'est une France que le monde regarde parfois, par certains, avec envie et satisfaction, notamment les Allemands rassurés de l'ancrage européen du président Macron. Une France qui a mis à sa vitrine politique les articles de la nouveauté, vont-ils se vendre facilement? Qui le sait? Il faudra aux macronistes ne pas oublier ce qui arrive au PS victorieux et triomphant il y a 5 ans et aujourd'hui dans les derniers rangs. Comment cela a-t-il été possible? Un ancien élu du PS de l'ancienne municipalité de gauche de Bastia, Georges de Zerbi, tente une réponse.
Il en est arrivé là parce que ce qui avait été promis n'a pas été fait. Et non pas parce que les gens n'ont pas voulu aller jusqu'au bout de leur logique, mais parce que les temps sont durs, parce que il est difficile d'appliquer des choses. Je pense pas qu'il faille mettre sur le dos de François Hollande des choses qu'on peut pas lui imputer. Moi, je pense que dans quelques années, on dira, bon, finalement, tout compte fait, le quinquennat de François Hollande, il n'était pas si mauvais que ça.
Mais si la situation politique est à l'heure de la nouveauté en France, le terrorisme nous ramène à une réalité porteuse de pessimisme et d'inquiétude, et aussi créatrice d'autarcie néfaste au progrès.
Merci Pierre-Louis Alessandri. Et on part de la Corse pour la Tunisie. La Tunisie qui a été marquée cette saison par le nouveau gouvernement et ses missions pour la relance touristique et économique et par les auditions publiques des victimes des violations des droits de l'homme. C'est aussi des portraits, des découvertes et des escapades. On écoute Maya Dassili de Radio Tunis, chaîne internationale.
Chers auditeurs, nous voilà arrivés à la fin de cette saison de Kantara. Une saison riche en événements sur les deux rives de la Méditerranée. Une saison qui a été aussi des plus agréables, malgré l'actualité pas toujours réjouissante dans notre région. En Tunisie, j'ai essayé de partager avec vous les moments forts que nous vivons ici. C'est donc tout naturellement que j'ai commencé cette saison en septembre dernier avec la formation du nouveau gouvernement d'Union nationale. La mission de ce gouvernement n'est évidemment pas des plus faciles. Si la situation sécuritaire a été maîtrisée et si les lois les plus importantes ont été votées, le gouvernement fait face ces derniers mois à une vague de contestations au sud tunisien, à El Kamour précisément. Un site pétrolier à plus de 130 km de Tataouine, en plein désert. Des sit-ineurs y sont sous les tentes depuis mi-mars pour réclamer le droit à l'emploi. Depuis près de 2 mois, les habitants de ces régions délaissées réclament donc une meilleure répartition des richesses et des recrutements prioritaires dans les sociétés pétrolières. Et malgré l'ouverture de négociations avec les autorités, le sit-in continue, jugeant les promesses non satisfaisantes. Le gouvernement Shahed mène aussi depuis le mois de mai une guerre contre la corruption. Plusieurs hommes d'affaires soupçonnés de corruption ont été arrêtés en Tunisie. Un coup de filet largement salué qui fait espérer à beaucoup une opération main propre 6 ans après la chute de la dictature.
Le tourisme va mieux, mais il ne va pas bien.
Dans cette saison de Kantara, nous avons aussi parlé du tourisme. L'année 2016 a été l'année de la reprise des activités touristiques. Afif Kchouk est le directeur général de l'Observatoire du tourisme en Tunisie.
Cette année, ça va mieux par rapport à l'année dernière. Ça ne va pas bien parce qu'on traîne encore, n'est-ce pas, des problèmes conjoncturels qui sont devenus structurels, qui ont aggravé les problèmes structurels déjà existants. Mais soyons positifs et positivants. Oui. Il va mieux, c'est vrai.
Selon l'Office national du tourisme tunisien, les entrées touristiques ont évolué de 46,2% au début de l'année 2017. Par rapport à la même période en 2016, les prémices d'une reprise du tourisme européen et notamment français et allemand vers la destination Tunisie se dessinent donc à travers les dernières statistiques publiées par l'Office national du tourisme en Tunisie. Nous avons aussi parlé dans cette saison de Kantara d'un autre événement important en Tunisie, les auditions publiques des victimes des violations des droits de l'homme en Tunisie. Pour la première fois en Tunisie, les victimes de violations des droits de l'homme entre 1955 et 2013 ont été auditionnées devant les caméras et les micros de la télévision et de la radio nationale. Gilbert Nakache, dirigeant historique de la gauche en Tunisie, est parmi ceux qui ont témoigné le 17 novembre 2016.
La révolution existe toujours, elle est vivante. Dans cette lutte pour qu'elle vive, il y a différents éléments, les révolutionnaires, les gens honnêtes, les gens qui voudraient un état de droit, mais qui ne voient pas encore très bien comment. Et il y a aussi la justice transitionnelle, qui est un élément fondamental de la révolution.
Ces auditions publiques, qui comprenaient aussi des témoignages des mères, des martyrs de la révolution tunisienne, ont été organisées par l'instance Vérité et Dignité. La douleur et l'émotion étaient au rendez-vous, des émotions que j'ai voulu partager avec les auditeurs de Kantara.
Merci à vous qui avez permis de rendre, de vivre cette journée qui, à elle seule, compense de beaucoup des frustrations des 5 dernières années.
Dans cette saison de Kantara, nous avons également parlé de quelques événements d'envergure internationale, comme la conférence Tunisie 2020 sur l'investissement, la conférence qui s'est tenue les 29 et 30 novembre et qui a réuni des décideurs politiques internationaux, des investisseurs et des partenaires de la Tunisie. Pendant 2 jours, la Tunisie a été sous les projecteurs du monde entier et a réussi à véhiculer une image positive de son processus de transition. Également tout au long de cette saison de vous faire découvrir quelques sites, quelques parcs, des châteaux, des forts, des forêts. Il y a eu des portraits d'artistes, des histoires sur les Italiens de Tunisie et sur les femmes qui ont marqué l'histoire de ce pays. J'espère avoir réussi à vous envoyer avec mes sujets quelques brises tunisiennes. Je vous souhaite à tous, chers auditeurs, un agréable été et vous invite à savourer cet hymne à l'enfance, Hello Biben, ouvrez les portes de Yasser Jadi et Najat Ounis.
صور والوان اوراق واقلام ورده في جنينه حصافر وحمام هذه حكاياتهم هذه غناياتهم يغنوا ويطيروا بين يقظه والنام
ضعوا بنا حكاية وحكاية فرغين نسمعنا صيحاتهم نفهمنا غزلاتهم لا حسينا سكاتهم
يسار ويمين عمرك ما اديت
ودنك البنت 8 سنين تحكي لك على الدنيا ومحبه الاخرين
تمشي وراها وتبع خطوتها لبنيه حل قلبك واسمع واعقد فيها النيه
Voilà ce numéro spécial bilan. Le dernier de la saison s'achève et avant de nous quitter, soulignons que Kantara est une coproduction Radio Le Caire, Radio Estelol d'Espagne, France Bleu RCFM, chaîne Inter Rabat, Alger chaîne 3 et Radio Tunis, chaîne internationale. N'oubliez pas de jeter un œil à notre page Facebook. Vous y retrouverez tous nos reportages, vous écouterez ou réécouterez tous les Kantara, tous les magazines que nous avons diffusés cette année. Voilà, c'est fini pour cette saison. Nous nous retrouvons avec des nouveautés début septembre. D'ici là, toute l'équipe de Kantara vous souhaite un magnifique été. Au revoir et à bientôt.